Je voudrais vous inviter aujourd'hui à ouvrir vos Bibles dans l'avant-avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Ne tournez pas les pages trop vite, il est très court, 2 chapitres. C'est le livre du prophète Agé. En remontant, Malachie, Zacharie, Agé. Au chapitre 2, à partir du verset 20, ce sont les derniers versets de ce livre du prophète Agé, à partir du verset 20, ce sont les paroles du Seigneur. Et je les lis. « La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé le 24e jour du mois en ces mots, par la Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, « J'ébranlerai les cieux et la terre, et je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, tu es mon élu, dit l'Éternel des armées. Amen. » Zorobabel était un descendant de David, mais il n'avait plus rien d'un roi. Il n'était qu'un gouverneur d'une partie quasi insignifiante de l'immense royaume de Perse, c'est-à-dire Juda. Quant à Jérusalem, la cité sainte et joyeuse dont il était aujourd'hui l'administrateur, elle n'était plus qu'un tas de ruines calcinées. Et pour couronner le tout, depuis 15 ans, cet homme était en situation d'échec personnel. Parce que malgré toutes les autorisations royales et divines et les moyens colossaux qui étaient à sa disposition, il n'avait pas été capable de mener à bien la reconstruction du temple. Alors Dieu suscita un prophète pour consoler et relever le prince, afin qu'il reprenne et achève la mission qu'il lui avait confiée. Et donc il envoya ce prophète Agé vers cet homme avec une parole personnelle. « Parle à Zorobabel. Nous avons un Dieu qui est capable de nous parler. » Et je crois et je demande au Seigneur que dans ce que je vais dire ce matin, il y a une parole pour l'Église, mais il y a une parole pour toi personnellement. Ce ne sera pas simplement dans les mots que je dirai, mais dans la révélation que le Saint-Esprit t'apportera. Dieu est capable de te parler comme il l'a fait à Zorobabel. Et il lui révéla que des temps terribles viendraient sur le monde, des temps d'ébranlement, pendant lequel le Seigneur renverserait et détruirait tout ce qu'il fait la force des hommes. Et il lui communiqua alors 4 paroles d'encouragement. Et il en avait bien besoin. Il lui dit tout d'abord, en ce jour-là, dans ce jour d'ébranlement, je te prendrai, je te prendrai. Toi, Zorobabel, homme sans force, sans succès, sans rayonnement, au jour où j'ébranlerai la terre, je te tremblerai, je te prendrai pour faire une différence entre toi et les autres et pour manifester à travers toi ma puissance. Et ensuite, il parla encore à Zorobabel et il lui dit, je t'appellerai mon serviteur, je t'appellerai mon élu. Et c'est là un titre très fort que Dieu n'a utilisé que pour peu d'hommes. Il appela Jacob son serviteur, il appela David son serviteur, il appela le peuple d'Israël son serviteur. Mais bien sûr, au-delà de Zorobabel et de ses hommes, le serviteur c'est Jésus-Christ. Rappelez-vous, au jour du baptême, la voix de Dieu se fit entendre auprès des hommes. Voici celui en qui j'ai mis toute mon affection, il est mon serviteur. Il est mon fils en qui j'ai mis mon affection. Et le Seigneur est encore celui qui non seulement nous prend, mais il est encore celui qui veut nous dire, tu es mon serviteur, je t'ai choisi. Toi, Zorobabel, eh bien, malgré tes échecs et tes faiblesses, je ne te méprise pas, je te choisis. Et le Seigneur te choisit. Si tu es là, c'est parce qu'il t'a choisi. Et il finit en lui disant en ces jours, je te garderai comme un sceau. Un sceau était à l'époque le moyen que les hommes éminents utilisaient pour marquer leurs courriers ou les contrats. C'était donc quelque chose de très important. C'était un cachet qui souvent était porté comme un anneau autour d'un doigt ou en pendentif autour d'un collier. C'était un symbole d'honneur, d'autorité et de puissance. Et le Seigneur lui dit, tu seras comme un sourd. À travers les événements qui t'entourent, quand bien même tu serais par moments bousculé, et alors que tu es faible à tes propres yeux et aux yeux des hommes, je ne permettrai pas que tu sois ébranlé, que tu sois renversé ou détruit. Au contraire, je te garderai comme la chose la plus précieuse, tu seras comme mon sceau à mon doigt ou autour de mon cou. Autrement dit, Zorobabel, je te marque de mon empreinte. Tu portes mon cachet sur ta vie. Et à travers toi, tu seras un signe distinctif parmi les hommes. Et le Seigneur fait de nous un sceau. Nous portons son empreinte. Et il nous dit, parce que ses paroles ne concernaient pas simplement que Zorobabel, il nous dit qu'il fait de nous des signes distinctifs. Voilà la parole que je veux partager avec vous ce matin. Une parole que le Seigneur veut nous faire entendre et qu'il adresse certainement à quelques-uns particulièrement, personnellement, dans un monde déjà ébranlé et en passe de connaître des bouleversements majeurs, comme il le fit pour Zorobabel, le Seigneur veut nous rendre inébranlables. Il veut encore nous prendre, nous garder et faire de nous les témoins de son autorité, de sa puissance dans un monde ébranlé. Il veut faire de nous des cachets qu'il porte à son doigt. Alléluia. Nous sommes entrés dans un temps où tout ce que nous pensions fermement établi se trouve déjà ébranlé. Regardons les nations, l'économie mondiale, la famille, la nature elle-même, tout ce que nous pensions acquis est remis en question. Tout ce que nous pensions solide bascule et menace de s'effondrer au point qu'il est difficile de savoir sur quoi nous pouvons nous appuyer sans crainte. Toutefois, ce temps n'est qu'un temps de convulsion, parce que vient un temps qui sera encore plus extrême. Le Seigneur dit « J'ébranlerai les cieux et la terre ». Des prophéties annoncent que dans le ciel, les étoiles tomberont. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça sera certainement très impressionnant. Il est dit encore que les fondements même de notre planète seront secoués par Dieu. Le Seigneur annonce des raz-de-marée, les mers se retireront avant d'engloutir des pans entiers de terre. Les montagnes et les collines chancelleront. Et Jésus dit que les hommes rendront l'âme de terreur dans ces temps où Dieu ébranlera les cieux, la terre et les nations. Et les répercussions seront immenses. Tout en quoi l'homme place sa confiance disparaîtra. L'or et l'argent lui seront enlevés, disent les prophètes. Tout ce qui assure aux hommes leur gloire sera balayé. Je renverserai le trône des royaumes, dit le Seigneur. Tout ce qui fait la puissance des hommes sera anéanti. Je détruirai la force des royaumes des nations. Tout ce de quoi l'homme s'enorgueillit sera mis à bas. La Bible annonce que les plus hautes constructions de ce monde seront renversées. Alors nous nous rappelons ce que le prophète Ésaïe écrit au chapitre 24, « La terre chancellera comme un homme ivre. Elle vacillera comme une cabane, parce que son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. » Voilà donc un temps d'ébranlement universel qui arrive. « Afin que tout soit éprouvé et jugé devant Dieu et par Dieu. » Et en ce jour où Dieu se lèvera bientôt, très bientôt, il démontrera que tout ce que l'homme juge inébranlable ne résistera pas devant lui et sera renversé et détruit. Dieu merci. C'est là notre espérance. Nous pouvons croire que Jésus sera revenu avant pour chercher son Église. Comme le dit encore Ésaïe au chapitre 26, « Va, mon peuple, entre dans tes chambres, ferme tes portes derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la fureur soit passée. » Il n'est pas de la volonté du Seigneur que l'Église soit touchée par la colère qui viendra, la colère de l'agneau, la colère de Dieu qui se manifestera à l'encontre de toute iniquité, les péchés des hommes et des nations. Dieu préservera son Église de cela parce qu'il est dit que nous sommes délivrés de cette colère. Néanmoins, rien ne garantit que nous n'ayons pas à traverser les premières convulsions, les premiers tremblements qui amèneront à cet ébranlement généralisé. Ne nous leurrons pas en imaginant que nous en serons épargnés et que nous passerons comme tranquillement à travers toutes ces choses, soyons plutôt avertis que nous serons secoués de plus en plus fortement. Secoués par rapport à la réalité de notre foi, de notre témoignage. Cependant, dans ce premier temps d'ébranlement, de convulsion dans lequel nous entrons, Dieu veut faire une distinction. Il veut distinguer son peuple des nations de la terre. Au milieu d'une génération ébranlée, il nous rend inébranlables. Il nous rend inébranlables dans un monde ébranlé. Pourquoi donc un tel ébranlement? Pour mettre en évidence la folie des hommes qui se confient dans des choses qu'ils pensent inébranlables, mais que Dieu secouera comme on secoue un arbre fruitier bien mûr. Et le péché des hommes est un fruit bien mûr aujourd'hui. Et il ne faudra pas grand-chose pour que Dieu secoue et que tout tombe à terre. Et le Seigneur distinguera ainsi ce qui est inébranlable de ce qui est ébranlable. Les choses qui seront ébranlées, renversées, démontreront qu'elles n'étaient pas faites pour l'éternité à venir. Pourquoi ? Parce qu'elles ne portent pas le sceau de Dieu sur elles. Elles ne portent pas le cachet, l'empreinte du Seigneur. Elles sont donc passagères, elles sont sans force, elles sont sans valeur. Nous sommes dans un temps de révélation. Dieu va révéler ce qui est ébranlable et passager et ce qui est inébranlable et qui subsistera pour l'éternité. L'Épître aux Hébreux au chapitre 12 dit que les choses inébranlables subsistent. Malgré les convulsions, les cris de terreur, les chocs venant de toutes parts, le Seigneur nous dit que notre cœur ne se trouble point parce que ce qui est inébranlable sera peut-être secoué, mais ne sera point renversé et détruit. Qu'est-ce qui est inébranlable et qui demeure pour l'éternité? Est-ce la puissance des royaumes de la terre? Non, le Seigneur a dit « Je renverserai le trône des royaumes ». Et il n'y a pas une nation sur cette terre, aussi puissante se croit-elle, qui ne sera pas renversée lorsque Dieu se lèvera. Alors, est-ce le pouvoir de l'or et de l'argent qui demeurera éternellement? Les prophètes nous disent que viendra un temps où l'or et l'argent ne vaudront pas plus que la poussière de la terre. Alors est-ce cette terre et cet univers qui demeureront éternellement? Le Seigneur nous dit que non, la terre elle-même sera jugée, elle est gardée pour un jugement à venir, le jugement du feu. Quant à l'univers, les prophètes annoncent qu'il sera roulé par Dieu comme un vieux manteau. Alors qu'est-ce qui est inébranlable? Qu'est-ce qui demeure éternellement? Jésus, sa parole et son royaume. Jésus, sa parole, son royaume. Et ceux qui sont inébranlables, et ceux qui demeureront éternellement, sont ceux qui auront pris le fondement qui s'appelle Jésus-Christ, le fondement éternel, le rocher des siècles, et qui porte sa marque, son empreinte, son sceau. Ceux qui sont marqués de l'empreinte de Christ demeureront pour l'éternité. Alors comme l'écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3:12, dans ces temps d'ébranlement, l'œuvre de chacun sera éprouvée. Pas simplement celle des non-croyants, pas simplement les systèmes de ce monde, mais l'œuvre de chacun, la réalité de la vie chrétienne de chacun, l'œuvre de nos familles, l'œuvre de nos ministères, l'œuvre de l'Église, l'œuvre des Églises. Et d'ailleurs, n'est-il pas écrit que le jugement commencera par la maison de Dieu elle-même, de Pierre 4, verset 16? Cependant, la volonté de Dieu n'est pas de nous perdre, mais de nous sauver. Alors, à cause des temps de convulsion dans lesquels nous rentrons et de ces temps d'ébranlement qui s'annoncent, Dieu veut nous rendre inébranlables. Inébranlables dans notre foi, dans notre espérance, dans notre piété, dans notre ministère, dans notre témoignage, mais aussi inébranlables dans notre maison, inébranlables dans notre famille, inébranlable dans notre mariage. Dieu veut nous rendre inébranlables. Comment procède-t-il? L'apôtre Pierre l'explique dans sa première et il nous dit que Dieu nous affermira, nous fortifiera, nous rendra inébranlables. Il évoque donc là un processus, une progression dans la foi. Cependant, il y a un élément indispensable qu'il nous faut recevoir pour être inébranlables, un royaume. Hébreux 11:28, le Seigneur nous presse de recevoir un royaume inébranlable. Et ce royaume, c'est celui de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pour l'instant, la nature de ce royaume est avant tout spirituelle. Mais ceux qui, dès aujourd'hui, reçoivent ce royaume inébranlable et spirituel et qui portent sur eux le sceau de Dieu sont rendus inébranlables comme ce royaume est inébranlable lui-même. Aujourd'hui, il est spirituel, mais bientôt, ce royaume se manifestera directement parmi les hommes dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. Et d'ailleurs, le temps d'ébranlement qui vient sur cette terre et dans l'univers tout entier est lié directement à l'apparition de ce royaume éternel. Lorsque Jésus, qui règne déjà en roi, va se saisir de son royaume, parce que Dieu lui dit, c'est le temps que tu prennes possession de son royaume. Quand Jésus va prendre possession de son royaume, il commencera par le ciel, les cieux des cieux, et il viendra ensuite sur la terre, mais tout sera ébranlé. Devant la puissance du royaume de Jésus-Christ, tout sera mis à terre, renversé. Le prophète Daniel nous parle déjà de cette image où il compare le royaume de Dieu à une espèce de pierre qui déroule, qui dévale une pente et qui vient comme frapper la statue des nations de la terre. Ces nations qui se croyaient si fortes sont brisées par un royaume céleste. Et le prophète dit que ce royaume ne sera jamais détruit. Il ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes des hommes et lui-même subsistera éternellement. C'est le royaume de Christ. Avez-vous reçu ce royaume inébranlable? Il n'est pas réservé à des hommes puissants, forts et riches, à ceux qui pourraient se qualifier de nobles ou telle ascendance. Ce royaume est donné par un Dieu plein de grâce à des hommes et des femmes pécheurs, mais qui reviennent à lui de tout leur cœur, en lui disant « Je veux changer radicalement, je veux délaisser mon péché, je veux délaisser mes offenses pour revenir à toi. » Seigneur, que nous rentrions dans un temps miraculeux où les hommes reviennent à toi, où les hommes reviennent à toi et placent leur foi et leur espérance en Jésus-Christ qui a donné sa vie à Golgotha pour le pardon, l'expiation de leurs péchés. Je voudrais vous dire que ce n'est pas suffisant de dire « Jésus, sauve-moi, Jésus, pardonne-moi de mes péchés » pour dire que nous avons reçu le royaume. Pour recevoir le royaume que Dieu veut nous donner, comme Paul l'écrit dans les Romains, il faut croire et confesser la seigneurie de Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement le dire, mais c'est le vivre. Que le Seigneur devienne, que Jésus devienne le Seigneur de ma vie tout entière. Qu'il ne soit pas simplement le Seigneur de mes heures d'église. Qu'il ne soit pas simplement le Seigneur de mon cœur, de cette partie spirituelle de ma vie. Il faut qu'il soit le Seigneur de toute ma vie. Et c'est en recevant Jésus comme mon Seigneur, comme celui qui va régner dans tous les aspects de ma vie, que je reçois avec lui son royaume inébranlable et qui me rendra inébranlable. Mais à ceux qui se tournent vers Dieu et qui reçoivent Jésus comme leur Seigneur, Dieu leur dit, comme il l'a dit en son temps à Zorobabel, « Quelle que soit la teneur des jours qui arrivent, je te prends, Dieu te prend. Et il t'appelle son serviteur, son élu. Tu es celui, tu es celle qu'il a choisi. » Et il te dit, quels que soient les événements d'aujourd'hui et de demain, tu es mon sceau. Je te garde à mon doigt comme mon sceau. Tu portes l'empreinte de ma vie, la marque du Saint-Esprit, et je ferai de toi un signe distinctif. Alors ceux qui reçoivent aujourd'hui le royaume inébranlable n'ont rien à craindre, parce qu'ils sont rendus inébranlables par le royaume inébranlable qu'ils reçoivent. Et il croit que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8. Rien ne pourra nous séparer, rien ne pourra nous ébranler. Ainsi, parce que nous avons reçu le royaume inébranlable de Dieu en reconnaissant Jésus comme notre Seigneur, nous sommes inébranlables. Tant que nous sommes sur cette terre, Dieu nous garde inébranlables. Quels que soient les événements que nous devons traverser avant que le Seigneur revienne, il nous gardera inébranlables et je ne craindrai rien. Jusqu'au jour où le Seigneur viendra me chercher, jusqu'au jour où il viendra nous arracher de ce monde chancelant, jusque-là, je serai inébranlable. Tu es inébranlable parce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et son royaume. Maintenant, recevoir le royaume inébranlable ne se résume pas à dire Seigneur, Seigneur. Jésus nous met en garde comme cela. Il dit, il y en a certains qui diront Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il dira, mais je ne vous ai jamais connu. Il faut que le royaume soit une réalité, non pas une réalité religieuse, mais une réalité puissante dans notre vie. Il faut que ce royaume devienne puissant en nous. Pas forcément dans ce qui est visible, dans les apparences extérieures, dans les formes qu'on voudrait donner à ce royaume. Le Seigneur dit de toute façon que le royaume n'est pas là de manière à frapper les regards. Mais le royaume doit être puissant en nous, dans ce qui est caché en nous. Le royaume doit être puissant dans ce qui est caché. Pour la plupart, j'imagine, vous connaissez cette parabole de Matthieu 7, dite la parabole du sage et du fou, la parabole des bâtisseurs. Il est question là d'un temps de bouleversement. La pluie, les inondations violentes, des tempêtes s'abattent sur les maisons des hommes. Et c'est un temps qui atteint tout le monde, y compris les enfants de Dieu. Et d'ailleurs, dans cette histoire, on pourrait dire que les deux qui sont concernés sont tous les deux des gens qui se revendiquent comme enfants de Dieu. Rappelons-nous que dans cette histoire, Jésus ne fait aucune différence entre les maisons. Celles du sage et celles du fou sont a priori identiques. Et dans leur forme extérieure, on ne peut pas les distinguer. On n'aurait pas pu dire ça, ça c'est la maison du fou. Comme on n'aurait pas pu dire celle-là, c'est la maison du sage. A priori, elles sont pareilles. Cependant, lorsque les temps de convulsion s'abattent sur elle, celle du fou est emportée tout entière, tandis que celle du sage résiste. Ce temps d'épreuve met donc en évidence non la qualité des maisons, mais la qualité de ce qui est caché, c'est-à-dire les fondations. La différence se fait donc dans ce qu'on ne voit pas. L'un avait bâti sur le sable, l'autre sur le roc, Jésus-Christ et son royaume inébranlable. Ce n'est pas ce qui est visible qui nous rend inébranlables dans un temps de convulsion. Ni la réussite sociale, ni la réussite professionnelle, ni même la réussite familiale, ni même une vie de service dans l'Église, mais ce qui assure notre inébranlabilité. Excusez-moi, c'est ce qui est caché. Notre relation avec Jésus-Christ. Ce n'est pas même le temps que nous passons à l'église. Je ne suis pas inébranlable parce que dimanche matin, je suis venu au culte. Venir au culte, ce n'est que le branchage de l'arbre. Mais les branches peuvent tomber. Mais si... Ce qui est important, ce sont les racines. Et si je suis un arbre avec beaucoup de branches, mais pas de racines, ça ne sert à rien. La vie d'église, ce n'est que la pointe de l'iceberg. 1/7 apparent, 6/7 caché. Qu'est-ce qui fait la force de l'iceberg, qui lui permet des fois de parcourir des milliers de kilomètres à travers les tempêtes des pôles? C'est sa profondeur. Qu'est-ce qui permettra à un chrétien de traverser le temps des convulsions dans lesquelles nous rentrons? Est-ce que c'est parce qu'il vient au culte? Non, ce sont les 6/7 du lundi au samedi. Ce sont les 6/7 qui commencent demain matin quand tu te lèves pour te préparer au travail, que tu prépares tes enfants, que tu rentres dans les moyens de transport, que tu arrives au bureau et toute la journée. Ce sont tous ces moments qui servent à stabiliser ta vie. C'est ça. C'est la présence du royaume de Dieu du lundi au samedi. Tout ce qui est caché, tout ce que les frères et sœurs ne peuvent pas voir les uns des autres. C'est ça la réalité de notre vie chrétienne. Ici, c'est la pointe cachée. La pointe immergée, pardon. Mais ce n'est pas ça la substance. La substance du royaume, elle est cachée en vous. Recevoir un royaume inébranlable, c'est appuyer et enraciner profondément nos vies, notre famille, notre foi, notre service, l'Église en Christ et en sa parole. Le royaume de Dieu doit devenir puissant en nous. Et c'est en devenant puissant en nous qu'il nous rendra inébranlables. Nous rentrons dans des temps où aucune maison chrétienne ne tiendra si elle n'est pas appuyée solidement et profondément en Jésus. On peut bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, avec des choses qui s'apparentent à tout ce qui est religieux. Mais si cela repose sur le sable des vanités humaines, au temps de l'ébranlement, tout sera renversé, détruit, emporté, rien ne subsistera. Ce sera un temps de révélation. Mais si votre maison est fondée sur Christ, sur sa parole, sur son royaume, elle sera inébranlable. Peu importe les convulsions qui s'abattront autour de vous, sur vous, votre maison demeurera comme un sceau au doigt de Dieu. Vous serez, vous et votre maison, un signe distinctif, un signe qui glorifiera Dieu. Les hommes diront, mais celui-là, comment fait-il pour rester debout? Comment fait-il pour rester dans la paix? Comment fait-il pour rester joyeux? Comment fait-il pour garder sa famille unie? Il a reçu le royaume et il a fondé sa vie dessus. Et ce royaume est devenu puissant en lui. Voilà ce qui fait notre force. Jésus-Christ. Dieu veut faire de nous des signes distinctifs dans ce monde ébranlé. Dans un temps où tout menace de s'écrouler, en nous donnant son royaume inébranlable, afin que nous bâtissions nos vies dessus, il veut nous rendre inébranlables. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, ce n'est pas par mes mérites, ce n'est pas par mes études. Non, ce n'est pas par nos études, ce ne sont pas par nos bulletins de salaire, ce n'est pas par le patrimoine que nous avons, que nous espérons avoir, que nous serons rendus inébranlables dans les temps de tremblement qui viennent, mais c'est parce que nos vies sont fondées et enracinées dans le royaume de Dieu et dans son roi qui s'appelle Jésus. Avez-vous reçu ce royaume inébranlable dans tous les compartiments de votre vie? Avez-vous établi votre famille, votre couple sur ce royaume inébranlable? Sur quoi votre famille, votre mariage sont-ils fondés? Simplement sur quelques sentiments humains ou sur Jésus-Christ? Avez-vous reçu son royaume dans votre famille? Enracinez-vous votre famille et votre couple dans son royaume? Et je dis même à des sœurs ou des frères dont le conjoint ne marcherait pas dans les voies du Seigneur, ne pensez pas que cette parole ne soit pas pour vous. Parce que ma sœur, même si ton mari ne te suit pas, tu peux fonder ta maison sur le royaume de Dieu. Tu peux fonder tes enfants sur le royaume de Dieu. Et comme l'apôtre Paul nous dit, par ton témoignage, tu vas même sanctifier ton mari pour l'amener à réfléchir aux voies que dans lesquelles tu marches toi-même. Voulez-vous une foi inébranlable? Voulez-vous une piété inébranlable, un témoignage inébranlable? Je vais même rajouter aujourd'hui, à cause des situations économiques qui deviennent difficiles, voulez-vous une situation professionnelle inébranlable? Je ne suis pas en train de dire que Dieu vous fera que vous n'ayez jamais de soucis de chômage, mais quand même vous seriez dans le chômage, vous savez que c'est Dieu qui vous permet de trouver le travail. Situation professionnelle, matérielle, par rapport à tous les besoins qui sont là, une situation matérielle inébranlable. La question, c'est de savoir quel sceau porte ces choses. Quel sceau porte ces choses ? Est-ce que ton travail, ta famille, est-ce que les biens que Dieu t'a confiés et que tu gères sont marqués du sceau du Seigneur ? Est-ce que tu as placé tout ça, est-ce que tu as placé toute ta vie, toute ta famille sur ces fondations solides ? Ou alors est-ce que tu t'appuies sur tes propres forces ? Tes forces ne sont que du sable. Est-ce que tu t'appuies sur les promesses des hommes, sur les diplômes des hommes ? Ce ne sont que du sable. Du sable ! Parce que quand le tremblement de Dieu viendra, tout ça s'effritera. Mais le royaume de Dieu demeurera. As-tu reçu le royaume ? As-tu reçu ce royaume inébranlable dans ta vie ? Y a-t-il de la substance cachée en toi ? Ou alors ta vie chrétienne, n'est-ce que cette surface apparente du dimanche matin ? Si tu te contentes de cela, le jour où ça va commencer à trembler, tout va disparaître. Ce qui fera ta force, ce sera la réalité de Christ en toi. Parce que qu'est-ce qui nous dit que prochainement, nous ne soyons plus en mesure de nous réunir ? Qu'est-ce qui nous dit que des temps de persécution, des temps de guerre ne viendront pas ? Et alors nous ne pourrons plus nous réunir comme nous pouvons le faire aujourd'hui librement, semaine ou même jour après jour. Si je n'ai plus ces rassemblements, est-ce que tout va s'effondrer ? Mais si dessous il n'y a rien, s'il n'y a pas cette réalité cachée, s'il n'y a pas le royaume de Dieu dans ma vie, alors si je n'ai plus les rassemblements, tout va s'écrouler. Mais si en moi, il y a les 6/7 de l'iceberg, on peut m'enlever 1/7. Ça ne m'empêchera pas de rester avec Jésus-Christ. Et c'est ce qui compte. Ce n'est pas le 1/7 visible qui nous rendra indestructibles, ce sont les 6/7 cachés. Ce n'est pas le 1/7 visible qui nous ouvre les portes du royaume de Dieu, c'est les 6/7 qui sont cachés. Quelle est la valeur des 6/7 qui sont en toi ? Quelle est la profondeur de cette vie chrétienne ? Alors, ce matin, vous allez me dire, ce n'est pas simplement regarder à Christ comme un sauveur. Pardon Seigneur, pardon Jésus de pécher, pardon, délivre-moi, guéris-moi, sauve-moi. Ce matin, dans le temps où nous sommes, dans le temps où nous entrons, tu dois regarder Jésus comme ton Seigneur. Comme ton Seigneur. Pour nous, c'est parfois difficile parce qu'on est tellement républicain dans l'âme qu'on se demande à quoi ça, c'est quoi un Seigneur. Mais il doit régner sur notre vie tout entière. Alléluia. Je vais demander au groupe de louanges, ils sont rentrés, de s'approcher. Et on va aller plus loin dans ce culte pour finir ensemble tout autour de la table du Seigneur. Mais avant d'aller plus loin, peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de répondre à ce message ce matin. Parce que tu sais que tu n'es pas encore solide. Et tu crains les événements qui sont déjà là et ceux qui sont à venir. Quand Christ ne voudrait que tu craignes rien, que ton cœur ne se trouble pas. Alors ce matin, tu comprends que tu dois recevoir quelque chose de plus profond en toi. Tu ne peux pas te contenter d'une vie chrétienne d'apparence et superficielle. Tu dois avoir la profondeur du royaume de Dieu. Que le royaume de Dieu soit puissant en toi, dans ta famille, dans ton couple, dans ton travail, dans tous tes projets. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de répondre à cela ? On va fermer nos yeux quelques instants. Si quelqu'un a besoin, je prie pour lui, je l'invite à lever sa main.